gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Aujourd'hui dans Gymnastique sonore, c'est le rendez-vous avec Vivace FM, un projet de Marion Poissel et Julien Carretero. Vivace FM est une série documentaire à découvrir lors de sessions en direct ou sur la FM qui explore différentes luttes contre des projets d'aménagement du territoire. Dans chaque épisode, des interviews, des archives, des extraits de films et des lectures s'entremêlent avec de la musique jouée en direct. Tout de suite, le troisième épisode, le port de l'agriculture industrielle, joué pour la première fois en direct à Port-la-Nouvelle.
Les oiseaux écrivent des récits. Les choses du monde écrivent des récits. Nous ne sommes pas premiers dans la liste des écrivains de récits. Ce que nous faisons, c'est les reprendre et nous essayons de les articuler.
Pour Carole Delga, notre présidente, c'est le port de la transition écologique pour la nouvelle. Parce que c'est là que vont se monter les éoliennes. Mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine change de narration collective.
Vivace, orchestration de voix vivante et tenace face à la destruction des territoires. Précédemment, Vivace se rendait à Port-la-Nouvelle pour assister au chantier pharaonique d'extension du port de commerce, placé par le Conseil régional d'Occitanie, derrière la vitrine alléchante de la transition énergétique et écologique. En grattant la peinture verte fraîchement étalée sur ce chantier démesuré, on mettait en évidence les liens indissociables entre le transport maritime de matières premières et l'accélération exponentielle de l'extractivisme mondial. À présent, Vivace reste dans l'Aude, au bord de la mer, pour continuer à mettre au jour ce que cache le vernis écologique du Conseil régional. Troisième épisode, Port-la-Nouvelle, le port de l'agriculture industrielle.
Nous sommes sur la jetée historique du port de Port-la-Nouvelle, avec au bout le phare, ce qu'on appelle le phare rouge, qui en fait est rouge et blanc, qui a toujours été un symbole du port et qui devient maintenant un élément du décor, hein, puisqu'il n'a plus de fonctionnalité par rapport aux entrées portuaires. Et nous voyons devant nous donc, le chenal, sur notre droite, là, il y a le chenal historique, hein, qui est aussi le gros qui fait la jonction entre la mer et le système lagunaire de Bages-Sigean. Devant nous, il y a un quai tout nouveau qui est dit le quai lourd, qui est destiné à la construction des éoliennes flottantes qui vont être déployées ici devant Grussan et devant le 4.
L'extractivisme englobe pas mal d'activités, mais avec ces caractéristiques-là, hein, les grandes échelles, l'exportation et cette dynamique territoriale, et on dit que ce sont des machines d'occupation du territoire et qui ont une vision sacrificielle du territoire. La seule chose qui est valorisée par les capitales est prise en compte et on peut bider les territoires justement pour les mettre au service et de l'expansion du capital. Ce qu'on voit, par exemple, dans les cas du pays où je viens, c'est l'Argentine, il y a une tendance, par exemple, à la monoproduction du soja. Et de 33 millions d'hectares consacrés et à l'agriculture, et 20 millions sont consacrés à la soja. Et donc, quand on parle des mégaprojets, on doit voir aussi qu'il y a une occupation intensive du territoire et que l'utilisation de l'eau et de l'énergie est encore plus grande. Donc, les impacts sur la population et sur les territoires sont aussi très grands.
L'extension portuaire, c'est tout ce que nous voyons autour de nous depuis l'usine qu'on voit là-bas, hein, avec des silos, qui est l'usine qui fabrique les blocs en béton qui servent en partie, on les voit là sur la crête de la digue.
Les acropodes.
Les acropodes, voilà, exactement. Donc depuis cette usine, on voit toute la digue. On voit un camion très loin là-bas qui roule sur le dessus de la digue jusqu'à la passe portuaire. Et les travaux que nous voyons ici avec les grosses barges, c'est l'extension de la digue actuelle.
C'est aussi le projet d'exportation de céréales. Et là, il parlait de tripler les exportations de céréales. Donc on était aux alentours de 400 000 tonnes dans les bonnes années. Il fallait passer à 1 million d'exportations de céréales. Alors, pendant les 10 dernières années, le prix des céréales s'est complètement écroulé. Parce qu'il y avait on se faisait piquer tous les marchés d'Afrique du Nord par la Russie et l'Ukraine et le Canada. Ça nous ramène à l'actualité, bizarrement. Et donc, on a perdu pratiquement tout le marché algérien, qui était un espèce de marché captif post-colonial. Et puis, les derniers marchés qui restaient, c'était en Égypte et en Tunisie. On était en train de les perdre et la production s'est complètement écroulée. Tant et si bien que là, actuellement, on devait passer à plus d'un million de tonnes exportées. Les chiffres de la douane nous donnent... On est descendu à 50 000 tonnes, simplement. 50 000 tonnes, c'est donc 10 fois moins que ce qui était exporté il y a 10 ans. Et c'est donc 20 fois moins que ce qui est... C'est une gabegie totale.
Samedi 10 mai 1980. Le safran s'était bel et bien terminé. Les derniers bulbes avaient pourri en terre à cause des pluies. Fini aussi les récoltes de tabac. La Chine avait tué le prix et l'Europe ne versait plus d'aide pour ces cultures-là. On avait abandonné tous ces travaux qui supposaient d'être en nombre, ces tâches qui avant rassemblaient les familles. De même pour les patates, il n'y avait plus besoin de passer 2 jours à 4 pattes. À présent, la machine faisait la récolte 100 fois plus vite, si bien que les grands-parents avaient triplé leur surface de binge et de rosa dans les terres du bas. Pour remplir les rayons en vrac du mammouth, il fallait coller à la demande, voire de plus en plus grand. Pour le bétail, c'était pareil. Et puisque l'herbe restait bien ce qu'il y avait de mieux pour nourrir les vaches, dans la famille, on favorisait le pâturage, qu'on arrivait maintenant à programmer, à faire pousser tel qu'on le souhaitait, plutôt que d'attendre que l'herbe pousse d'elle-même. On savait semer ce qu'il fallait de graminées, de trèfles et de raies grasses pour que la prairie ait le bon rapport entre les feuilles et les tiges, de sorte que la pâture était plus digeste et mieux assimilée par les bêtes. Les tourteaux de soja et le maïs ensilé complétaient les rations de protéines, tout devenait précis et sûr, les bus des semoirs étaient millimétrés, le progrès n'était pas réservé qu'à Hong Kong, Taïwan ou Singapour. Dans les fermes aussi, il avait sa place.
Alors comment les paysans ont failli disparaître? D'abord, toujours rappeler, parce que parfois on l'oublie, que dans l'histoire de l'humanité, les paysans, ils se sont installés dans des tas d'endroits différents, avec des situations géographiques différentes, avec des milieux différents, qu'ils ont su trouver des techniques pour vivre, qu'ils ont su trouver des techniques pour maintenir les milieux naturels à peu près en bon état qu'ils nous ont transmis, la plupart du temps en les préservant, et qu'en l'espace de 150 ans, cette richesse, cette variété, cette diversité, ces connaissances, ces savoirs ont été laminés par ce qu'on a appelé la modernisation agricole.
Alors là, je gère un stock de préfabriqués béton. Ça s'appelle des acropodes. C'est la phase finale d'habillage de la digue pour casser les vagues. Moi, je suis au milieu d'un stock de béton. On dirait un cimetière de dinosaures, ces acropodes-là. Et du coup, il y a la partie enrochement, donc c'est vraiment que du caillou. Après, on a une belle vue sur la mer, avec une plage plus du tout accessible au public. Du coup, ça nous fait un côté d'horizon sympa. Mais sinon, à l'intérieur du chantier, c'est plat et c'est en gravier, c'est du terrassement pur avec des zones de stockage. Au niveau du stock, on est entouré de matériaux, que ce soit de l'enrochement ou des acropodes de béton et des engins. Et puis des fois la nuit, ça fait un peu comme Mad Max avec toutes ces gros engins surdimensionnés de plusieurs tonnes de ferraille. Et quand il y a la tramontane qui se lève avec les lumières des lampadaires et cette vision apocalyptique là, ça fait, on se croirait dans Mad Max, vraiment.
En plus, c'était pas une surprise hein, que l'effondrement de la production de blé dur. Elle est depuis 2008, ça s'effondre la production. On leur avait montré là, il y a des schémas. Bon, à la radio, ça passe pas les schémas, mais on leur avait montré là. On avait fait les courbes de production. Ça s'effondrait. La région, elle est absolument pas concurrentielle avec les grandes plaines du Canada, avec les terres en Ukraine et en Russie. On reviendra pas au niveau des années 2005-2008. On n'y arrivera jamais. Et il ne faut pas qu'on y arrive en plus, parce que ça veut dire qu'on va continuer dans la monoculture, on va continuer à foutre des engrais dans les sols, etc.
Cette modernisation agricole, elle s'est faite bien sûr en plusieurs phases. Bien sûr, la mécanisation, la motorisation, ça a été la première chose qui s'est faite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, c'est les chiffres de la FAO, il n'y a pas plus que 28 millions de tracteurs. Et on considère qu'il y a 200 millions de paysans qui travaillent en traction animale et 1 milliard qui continuent à travailler à la main. Donc la partie mécanisation et motorisation, à l'échelle mondiale, ça n'a pas touché beaucoup de paysans. La deuxième phase, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la chimisation, c'est-à-dire dont il faut toujours rappeler que ça a été une reconversion des produits chimiques qui ont été utilisés dans la guerre. Hein, donc ça, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Puis la troisième phase, c'est la phase génétique, bien sûr, avec la Révolution verte, qui a développé les semences hybrides, et puis ça a suivi par les OGM, l'insémination artificielle, et maintenant la transgénèse. Donc voilà. Et bien sûr, la phase actuelle, c'est l'agriculture connectée, l'agriculture 4.0. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est à peu près le panorama. Et ce panorama, il a signifié quelque chose de très important, c'est que l'agriculture a basculé. L'agriculture qui était en fait, qui dépendait principalement de la nature, va commencer à dépendre du marché. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, va faire partie de l'agriculture industrielle, d'une manière ou d'une autre, va passer par le marché.
Samedi 12 juillet 1980. Sur ce point, Giscard avait gagné. Pour les siècles des siècles, il resterait le président qui aurait suspendu des fils de caoutchouc noir tout le long des routes, tendus entre des pins morts. Encore un combat que le père Cressac avait perdu, un peu comme le Larzac, car si la lutte ne faiblissait pas, le combat n'était pas gagné. Pourtant, le vieux paysan continuait de rallier ses comités là-haut dans l'Aveyron. Cette lutte durait depuis 10 ans. Et pour qu'elle se perpétue, il devait sans cesse trouver de nouvelles idées. Après les marches et les messes, il y avait eu les pique-niques et les concerts, les sit-ins et les actions coup de poing, comme les lâchers de brebis en préfecture. Et depuis l'été dernier, des légions de citadins venaient filer un coup de main pour travailler au champ ou retaper les bâtiments, pour dégager les chemins ou remettre les poteaux du téléphone debout. Tu sais l'avantage qu'ont les brebis sur les paysans ? Non. Bah, c'est qu'elles ont une bonne tronche. Je vois pas le rapport. Une brebis, ça a l'air sympathique, c'est tout gentil, c'est comme une touffe de laine toute douce. Bah alors ? Et alors, t'as déjà vu quelqu'un qui a peur d'un mouton ? Bah non. Eh ben, sur le Larzac, c'est grâce aux brebis que les paysans ont gardé le soutien de tout le monde. Aussi bien des hippiques, des citadins, des cathos que des cocos, tous. Crois-moi que si là où ils avaient élevé des dindons, des cochons ou des taureaux, ça n'aurait jamais marché le Larzac, tu comprends ? C'est peut-être mignon les brebis, mais c'est quand même un peu con. Bah pour sûr, mais ça, les flics à Debré ne le savent pas. Des milliers de brebis lâchées sur les Champs-Élysées ou le Champ de Mars, et peut-être même à l'Élysée, pourquoi pas ? Crois-moi que ça sera un beau bordel, parce que les flics à Paris sont formés à interpeller des caïds, armés comme des porte-avions, des gauchistes ou des terroristes de l'OLP, mais pas des brebis. Ouais, mais c'est quand même pas les brebis qui tiendront les banderoles. Non, mais elles seront là. Depuis le début, elles sont là. Et dans la lutte, ce qui compte, c'est de ne rien lâcher. D'être sûr de pouvoir tenir 10 ans, 20 ans s'il le faut. Et ça, les brebis, elles le font.
En général, c'est du... Il y a 4 jours travailler, 4 jours week-end, et ceux qui font la nuit aussi, donc 4 nuits, 4 jours week-end, et ils alternent. Du coup, ça fait 4 équipes qui tournent H24 sur toute la semaine. Et d'ici cet hiver, on ralentit un peu la production, donc on va passer en 3-8 et pas de travail le week-end. C'est un chantier qui tourne H24, relayé systématiquement.
Toi, quand t'es arrivé là, c'était le début du chantier, tout début?
Quasiment. Il devait y avoir 6 mois d'installation, oui. Moi, je suis arrivé... Ouais, c'est ça. Ça a dû débuter pendant le confinement, je pense. Enfin, à cette hauteur-là.
Et du coup, il n'y avait pas de digue, il n'y avait rien, quoi.
Il n'y avait pas de digue. Et au début, je pensais qu'on n'allait jamais y arriver. Parce qu'on avançait mètre par mètre, mais sur des semaines et des semaines pour arriver aux 2,5 km de digue. Et donc, le travail, c'est un travail de fourmi. Et on se relaye, donc chacun apporte un peu son truc, quoi. Mais ça met vraiment beaucoup de temps à avancer sur la mer. Parce qu'il y a de la profondeur aussi un peu. Du coup, tu vois... C'est au bout de un mois que tu vois vraiment ce que t'as fait, l'avancement. Sinon, c'est long. Ça fait que après 2 ans que je vois le stock d'enrochement vraiment diminuer, quoi. Sinon, c'était constamment, t'en enlèves du stock de l'enrochement et constamment, t'as les carrières qui venaient en rapporter, quoi, par semi-remorque. Tous les jours, il y a des camions qui viennent encore, ouais. Je peux pas dire en tonnage, mais c'est des milliers de mètres cubes.
C'est l'Afrique du Nord, puisqu'ils font de la semoule et tout ça. Et c'est vrai que la région du Maghreb est complètement déficitaire. Mais elle ne sera. Tant que le blé dur sera si peu cher, ça n'encourage pas les producteurs à le produire. En plus, il était subventionné, ce blé dur. En moyenne, on avait calculé que pour chaque hectare, l'agriculteur il recevait 200 euros de subvention. Donc normalement, la concurrence, elle doit être loyale et non faussée. Donc quand tu exportes du blé dans des marchés extérieurs subventionnés, au niveau du transport, donc avec le port, au niveau de la production, on est dans une concurrence complètement faussée. Et dans un pays comme l'Algérie pourrait très bien produire son blé dur. Mais c'est évident que quand il y a une concurrence comme ça, bah, ça décourage la production.
Alors l'autre aspect après l'industrialisation, c'est donc la mondialisation. Et en fait, ça a signifié quelque chose de très important, c'est au niveau mondial, la mise en concurrence des paysans ayant des niveaux de productivité très différents. Parfois on dit de 1 à 500, dans certains secteurs de 1 à 1000. Et comme par hasard, ceux qui ont la meilleure productivité sont en plus ceux qui ont été subventionnés. Donc ça a créé une inégalité à l'échelle mondiale entre paysans qui s'est jamais vue dans l'histoire. La mondialisation, c'est aussi la priorité qui va être donnée aux cultures d'exportation contre les cultures vivrières. Et c'est l'extension de la marchandisation à de nouveaux secteurs, comme le brevet sur le vivant, ou comme, je pourrais y revenir, ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui consistent à donner un prix à tous les éléments de la nature, on appelle ça les services écosystémiques.
Ça pompe les subventions, les subsides régionales pour des projets qui n'ont rien à voir avec... la souveraineté alimentaire, avec l'écologie, avec la restauration des sols et tout, ça, c'est complètement contradictoire. Enfin, pour l'anecdote, il faut quand même dire que toute la région s'est aperçue que dans la première crise de Covid, Carole Delga nous disait qu'elle était fière d'être la première région productrice de blé dur de France, et on avait plus un paquet de nouilles dans les supermarchés. Parce qu'en fait, on exporte du blé dur, mais on importe des pâtes. La moitié de la consommation française de semoule, de pâtes, de tous les aliments qui sont faits avec du blé dur, est importée. On est dans un truc complètement fou, c'est la mondialisation. Donc on exporte du blé dur, on importe les pâtes d'Italie et même d'Espagne. Nous, c'est contre ça qu'on se bat aussi, c'est contre cette espèce de gabegie au niveau des transports, au niveau de... C'est n'importe quoi. Alors en plus, quand vous avez une collectivité locale qui fout 400 millions d'euros pour soutenir un système aussi débile... Je sais pas, on devrait tous se révolter contre ça, mais bon, voilà, c'est...
Alors vous avez bien sûr des conséquences écologiques, ça c'est tout le monde les connaît, destruction des sols, pollution par les produits chimiques de l'eau, des mers, des sols, etc. Il y a une destruction des sols, la deuxième moitié du XXe siècle, les deux tiers de la surface agricole mondiale ont été fragilisés. Pas uniquement par l'agriculture industrielle, mais c'est sûr que le type d'agriculture qui s'est mis en place aussi bien par le machinisme que par les produits chimiques ont considérablement contribué à la destruction des sols. Bien sûr, les trois quarts de la biodiversité cultivée a disparu au cours du XXe siècle. Ça, c'est les chiffres de la FAO, donc c'est considérable. Et puis, une consommation d'énergie considérable également. Et enfin, on le sait, l'agriculture contribue au réchauffement climatique. À peu près 25% des effets de serre sont produits par l'agriculture.
Samedi 12 juillet 1980. Tu sais, Alexandre, c'est pas pour rien que je te raconte tout ça. Un jour, tu te sentiras peut-être concerné. Les manifs, moi, c'est pas mon truc. D'accord, mais si un jour c'est à toi qu'il arrive une tuile, tes vaches, personne n'aura envie de venir les caresser, tu comprends? Au Bertrand, vous croyez les plus forts parce que vous avez des hectares et du cheptel, vous avez peut-être beaucoup, mais vous êtes seul. Et si un jour l'État décidait de foutre un camp militaire sur vos terres ou un barrage sur la rivière, vous serez tout seul. Mais ils feront jamais de camp militaire par ici. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça fait 10 ans qu'ils parlent de construire une autoroute pour aller de l'Espagne à Paris. En ce moment, ils avancent au nord, à Châteauroux, Limoges, Orléans, mais bientôt, c'est sûr, ils attaqueront le tronçon sud. Mais pourquoi ils passeraient justement par ici? Et parce qu'autour, il n'y a que des terres vides, et les terres vides, ça s'exproprie facilement. On est pile dans l'axe. Ils ont déjà les plans pour enjamber la vallée de la Dordogne et du Lot. Alors enjamber la vallée de la Rose, tu penses bien que ça leur pose pas de problème. Tu vois, moi je m'étais bien juré que jamais le téléphone passerait par mes champs. Et t'as vu le résultat? Le progrès, c'est comme une machine. Ça nous broie.
C'est un modèle productiviste contre lequel on s'insurge, quoi. Et nous on dit qu'il faut revenir à des. Il faut sortir des monocultures, qu'il faut remettre des protéagineux. On importe 80% des protéines nécessaires à nos élevages ici. Et en sachant que nos élevages sont très déficitaires pour simplement suppléer à l'alimentation de la région. Mais malgré tout, on produit à peine 20% des légumineuses. Donc cette production de protéines végétales ne peut se faire qu'en remplacement de ces cultures céréalières. Il faut rétablir des rotations, dans les sols. Et donc il faut arrêter, il faut forcément réduire la production de blé dur dans la région.
Conséquences pour l'alimentation, je vais passer, mais simplement... Je voudrais revenir sur la question qui dit que l'agriculture biologique ne peut pas nourrir le monde. Alors je rappelle que l'autre ne la nourrit pas. Et qu'actuellement, on estime 3 milliards de gens qui soit ne sont pas nourris suffisamment, soit sont mal nourris, soit sont insuffisamment nourris. C'est-à-dire presque la moitié de l'humanité. Et ce système-là ne nourrit pas et ne nourrira pas parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour faire de l'argent. Et si c'est plus rentable de transformer le blé en agrocarburant ou de donner à du bétail, eh ben on n'hésitera pas à le faire. Donc moi je dis, en fait, ce système, il nourrit les gens à la marge. Mais ce n'est pas son objectif et ça ne sera jamais son objectif. Les agricultures paysannes sont principalement nourricières. Elles sont construites sur l'idée d'alimenter le monde et de s'alimenter d'abord soi-même et de s'alimenter son environnement, ce qui n'est absolument pas le cas d'agriculture industrielle.
Mardi 30 septembre 1980. Le soir après dîner, le père descendait souvent voir ses parents. À pied, il fallait 10 bonnes minutes en suivant le chemin, mais le doux pour remonter. La plupart du temps, donc, il y allait en voiture. Avec Jean, ils firent un point sur ce qu'il y aurait à ramasser cette semaine, les salades, les épinards, les tomates qui se faisaient rares. Mais le souci, c'était la ferme d'en haut. Avant de songer à acheter un nouveau tracteur, il faudrait refaire les canalisations sous les bâtiments. Pour ça, faudrait rentrer un peu plus d'argent. Et avec tout ce qui se racontait ces temps-ci au sujet des veaux aux hormones, Jean leur dit que c'était le moment de montrer à tout le monde qu'ici, ils travaillaient autrement, qu'ici, ils avaient ce trésor que les éleveurs semblaient oublier, cette merveille qui valait tous les tourteaux et les anabolisants du monde, l'herbe. Des hectares de prairies longues et grasses. Il leur reparla de son idée de faire de l'engraissement, de récupérer des vaches de réforme, d'anciennes laitières qui, avec de la bonne herbe et du bon maïs ensilé, prendraient facile 100 kilos. Tu sais, Jean, avec tout ce qui se passe actuellement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre des laitières dans le troupeau. Faut pas s'amuser à mélanger les animaux comme ça. Ça ramène plein de microbes. Oublie pas l'adage, quand on achète des bêtes, on achète aussi la maladie. Et puis avec les autres vaches, ça se passerait mal. Bah, on les mettra à l'écart, on pourrait en prendre au moins 20 de plus. Vu que le haché est à la mode, 20 vieilles laitières, ça serait parfait. Écoute, Jean, là-haut, t'es chez toi maintenant, mais tu vois bien que l'herbe ne pousse plus comme avant. Il y a 50 ans de l'herbe, j'en avais jusqu'à la taille. Ça poussait même à la Toussaint. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'herbe poussera toujours. Je t'assure, je vois moins d'eau dans les sols. Je vois plus de trèfle blanc. Et regarde les puits. En juillet, on pompe déjà les cailloux. Crois-moi, les temps changent. Et alors, s'il n'y a pas assez d'herbe pour 20 vaches de plus, eh ben, il suffira de doubler le maïs et on les nourrira avec. On va leur montrer ce que des bêtes élevées naturellement. Mais là encore, t'auras besoin de plus d'eau. Le maïs, en plus des 20 vaches, ça fait des mètres cubes. Eh ben, on pompera dans la rivière. Elle est bien à nous, la rivière. La rivière, oui, mais pas l'eau.
Et par-dessus le marché, quand on regarde l'Europe, l'Europe, elle consomme à peu près, elle mobilise une fois et demie sa superficie dans d'autres pays du monde pour pouvoir se nourrir. Donc non seulement elle ne nourrit pas le monde, mais elle l'affame d'une certaine manière. Donc tout ce mythe de l'agriculture, du pétrole vert, etc., qu'on a ressassé pendant très longtemps et qu'on a besoin de nous pour nourrir le monde, tout ça, ça n'existe pas. C'est exactement le contraire qui est en train de se passer.
Mais nous, sur l'histoire agricole, c'est pareil, on est quand même furieux, parce que cet argent, on avait fait un petit calcul moyen, prix d'installation d'un agriculteur, et puis, on avait calculé qu'avec l'argent dépensé simplement sur le côté des infrastructures portuaires, on aurait pu installer 400 agriculteurs en bio.
C'est avec nos agriculteurs que nous devons bâtir le nouveau modèle de développement durable pour demain. Et aujourd'hui, nous sommes la première région française en agriculture biologique, avec plus de 10 000 exploitations. Et je rappelle que nous avons également...
Nous, on prenait d'ailleurs ce que disait aussi le conseil régional, qu'il fallait diversifier l'agriculture, qu'il fallait introduire des légumineuses qui apportaient de l'azote naturel dans les cultures. On était sur des injonctions complètement contradictoires. On est sur des injonctions contradictoires du conseil régional qui nous dit il faut relocaliser l'agriculture, il faut revenir à un modèle plus agroécologique qui tienne le coup d'une manière agronomique, il faut absolument consommer ce qu'on produit, etc. Et puis, ils étaient sur un projet qui aurait dû monopoliser toutes les meilleures terres du Lauragais pour faire de la céréale. Toutes les plaines pour faire du blé dur, essentiellement, qui devait partir sur le Maghreb. Alors avec les bonnes intentions, qu'il fallait nourrir le tiers-monde, je sais pas quoi, qu'il fallait nourrir les pays d'Afrique du Nord, etc.
Mardi 30 septembre 1980. Depuis que Louis avait passé la ferme à son fils, il n'était pas tranquille. Non pas à cause de celui-ci, mais des nouvelles normes en tous sens, des heures de paperasse que ça supposait. Pour le moindre mouvement de brindille sur l'exploitation, il fallait ouvrir un dossier. Jean ne disait plus rien. Les idées continuaient de se bousculer dans sa tête. Est-ce qu'il avait raison d'en chercher tout le temps de nouvelles? Et où ça le mènerait de travailler avec l'hypermarché? Est-ce qu'il y avait vraiment des risques à engraisser des bêtes venues de Normandie ou d'on ne sait où? Je suis sûr que c'est le gars du mammouth qui t'a mis cette idée en tête. Laquelle? De faire de l'engraissement. Mais t'y as jamais pensé, toi? Ben certainement pas. De toute façon, ça te fera de la viande molle. Mais justement, aujourd'hui, le gros de la demande, c'est le haché. Tout le monde veut de la viande hachée. Entre les tartares, les burgers, les McDo et les steaks congelés, tu vois pas toutes ces pubs à la télé? À la télé, je regarde pas les pubs. Sans parler des vieux qui ont plus de dents ou des mômes, même dans les restaurants, c'est la mode du haché. Et toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que le haché, c'est un nid à microbes. T'as bien vu le boucher du Zerche? Ils l'ont fait fermer. Avec son hachoir, il a empoisonné tout le monde. Paraît que ça aurait même tué des gosses. C'est une saloperie, ce truc-là. La viande, c'est pas fait pour être hachée. Mais man, aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de faire des daubes. Le collier, le paleron, tout ce qui met 2 heures à cuire, de nos jours, ça part en haché. Sinon, ça se vendrait plus. Le monde change, aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Et moi, je travaille pas, peut-être? C'est pas ce que je veux dire, mais les femmes en ville, elles ont pas le temps de faire un pot-au-feu. Dans le monde moderne, c'est plus comme ça que ça marche. Eh bien, ce monde-là ne tourne pas rond. Congeler de la viande pour que les gens le mangent à 100, 200 ou 2000 km de là, de ce monde-là, j'en veux pas. Écoute, le monde, on ne changera pas. On n'y peut rien. Maintenant, pour te dire les choses sans prendre de gants, la vérité, c'est qu'il faut aller vers 200 kg de haché par vache. Voilà. Sans quoi le bétail, c'est pas rentable. Ça sert à rien de faire des belles bêtes musclées à la culotte bien rebondie si on les vend pas au bon prix. Jean s'en voulait de tenir tête à ses parents, mais il se savait à la croisée de deux époques, de deux mondes. Cette ferme, il devait la faire tourner avec de vieux bâtiments, d'anciennes méthodes, et en même temps l'adapter pour la mettre aux normes, la préparer au monde de demain pour son fils, construire des stabulations plus hautes et bâtir un local de mise en quarantaine. Jean se savait de la génération charnière, celle qui prendrait le virage ou pas, une génération qui devait accepter le progrès, sans quoi le monde se passerait d'eux.
Les paysans, ils n'ont jamais cessé de se battre. Ils ont participé dans l'histoire à toutes les luttes des révolutions, les luttes de libération, etc. Les paysans ont toujours été présents. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a des paysans rétrogrades, enfermés, pas du tout. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut resituer cette émergence des mouvements paysans qui sont nés justement de la libéralisation des échanges. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que si à l'échelle mondiale, on les mettait en concurrence les uns contre les autres, eh bien ils allaient vraiment disparaître et que donc s'il fallait absolument qu'ils résistent à ça. Ces mouvements, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent pas, ils veulent rester paysans. Et ils veulent pas l'avenir qu'on leur promet, c'est-à-dire soit ils deviennent des exploitants agricoles, ils s'agrandissent, ils se modernisent, soit ils vont vers les villes, c'est l'exode. Alors quand ils ont un peu de chance, ils ont du travail. Quand ils n'ont pas de chance, ils se retrouvent chômeurs et ou se trouvent dans des bidonvilles. Donc cet avenir-là, ils ont dit, on n'en veut pas. On veut être paysan, on veut rester paysan et on va faire tout pour le faire.
Pour Carole Delga, notre présidente, c'est le port de la transition écologique pour la nouvelle. Parce que c'est là que vont se monter les éoliennes. Mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Au secours! Face à l'urgence climatique, nous crions au secours. Face à l'incohérence de la politique écologique de la région, nous jouons du pipeau. La terre brûle et la région finance un port pétrolier géant. La biodiversité s'effondre, mais la région détruit 1 kilomètre de plages sauvages qui finit sous le béton. La région communique partout sur la transition écologique, mais l'essentiel de ces investissements dans ce véritable écocide, ce véritable climaticide. Nous sommes là pour demander de dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire que ce grand port pétrolier est inutile. Dire la vérité, c'est ne plus dire que ce port est nécessaire à la production d'éoliennes en mer. Dire la vérité, c'est dire que la destruction des espèces protégées n'est pas compensable par une réserve naturelle qui existait déjà. Les espaces naturels s'amenuisent inéluctablement. Nous vous demandons d'agir, de réagir.
Alors, sur quoi ils luttent et sur quoi ils s'organisent? Alors, bien sûr, la terre. La terre, ça a toujours été stratégique dans les formes de lutte. Bien sûr, derrière cette question de la terre, c'est aussi l'installation des jeunes, puisque pour que des jeunes puissent s'installer, il faut avoir un accès à la terre. La biodiversité, c'est une autre lutte très importante. J'ai dit qu'elle avait disparu de manière très importante. La biodiversité, c'est ce qui a été mis en place un peu partout dans le monde, les réseaux de semences. Les pratiques culturales, réfléchir sur les pratiques culturales, parfois, je ne vais pas passer mon temps à cracher sur les agronomes, c'est vrai qu'il y en a très peu qui s'engagent vraiment, en tout cas dans nos pays, qui s'engagent vraiment aux côtés des paysans, mais dans certains cas, essayer de réfléchir avec des agronomes à des pratiques culturales qui permettent de maintenir les milieux naturels. La souveraineté alimentaire, donc c'est le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole.
Vendredi 24 avril 1981. Jean se redressa au fond du trou. Pour la première fois de sa vie, il était au cœur même de sa terre, dans ses entrailles. Il jeta un regard à ses flancs inertes et constata que c'était mort là-dedans. Les pluies n'y descendaient plus, pas plus que l'air et les racines. C'était de la terre tassée, figée dans sa masse inerte. Cette dalle en dessous, c'était peut-être une source éteinte. Ça voulait dire qu'ici même, il y avait des générations de cela, de l'eau sourdait, et que tout se tarissait maintenant, qu'un jour il n'y aurait plus rien. Ça voulait dire que cette terre pourrait crever, que depuis toujours il la tuait, lui et des générations d'aïeux avant lui. Il l'avait tuée à force de la lessiver, d'enlever les résidus de paille et de faire place nette entre deux récoltes. Pour que ces sols se remettent à assimiler l'eau et l'air, il faudrait donner à manger aux vers de terre, balancer des résidus de matière organique pour que les lombrics reviennent. Faute de quoi il faudrait ajouter toujours plus d'engrais, tenir à bout de bras toutes les récoltes à venir. Cette terre, on devait la salir pour qu'elle revive. Mais ça prendrait des années. Elle gagnerait 1 centimètre d'humus en 3 ans, autrement dit 5 en 15 ans. Ça serait terriblement long, mais surtout ça remettrait en cause leur façon de travailler et leur rendement. Or, pour être rentable, il fallait élever toujours plus de bêtes, doubler le cheptel en 10 ans. Alors, c'était pas le moment de tout chambouler.
pense qu'il faut rompre avec beaucoup de paradigmes très importants. Je vais vous en donner deux. Il y en a d'autres, mais moi, je vais en donner deux. Alors, la première rupture, c'est avec la notion de développement. Alors, je crois que c'est très, très important parce que, en fait, pour comprendre pourquoi, que vous soyez un pays socialiste, que vous soyez un pays capitaliste, que vous soyez dans le tiers-monde, que vous soyez progressiste dans le tiers-monde, que vous soyez une dictature dans le tiers-monde, que... et il y a toujours cette même logique d'industrialisation, de gagner en progrès technique, etc., etc. Donc c'est pas forcément l'idéologie politique qui est derrière, mais c'est bien cette notion de développement qui est absolument une notion complètement intériorisée par tout le monde comme quelque chose de positif et quelque chose d'inéluctable.
Va permettre de transformer tout ça en plus vert et plus écolo et plus durable et tout ça en grandissant et en rajoutant encore, en empilant encore soi-disant donc de l'hydrogène, en stockant des engrais et des trucs, des stocks de pétrole et en empilant et voilà jusqu'au souci quoi. Ils nous promènent avec des techniques politiques, commerciales et tout ça, de tout verdir. On a bien vu le McDonald's qui est devenu vert et tout le monde qui suit. Et pour nous faire croire, quoi, pour nous vendre mieux les choses et qu'on continue de leur donner raison. Et c'est dingue comme ça marche quoi, sur pas mal de gens. Donc, je pense pas que ce soit plus vert, plus écolo de faire encore plus de transport et d'exploitation dans tous les sens du terme, des peu de ressources qui nous restent apparemment quoi, donc ça paraît complètement loufoque, incompréhensible leur programme et on est face à des gens qui continuent, qui insistent, voilà.
Et puis le dernier élément, ce que j'appelle des dissidences. Alors les dissidences, la définition du Larousse, c'est action ou état de quelqu'un ou d'un groupe qui ne reconnaît plus l'autorité d'une puissance politique à laquelle il se soumettait jusqu'alors. Alors en fait, dans l'histoire des paysanneries, les paysans ont toujours trouvé des lieux de refuge pour essayer d'échapper à l'État et à toutes les contraintes qu'imposait l'État. Donc la dissidence, c'est se déconnecter du système en fait, essayer de trouver en autonomie, et pas simplement une autonomie ponctuelle, mais vraiment une autonomie globale. Alors nous, qu'est-ce qu'on a chez nous ? Ce qui est quand même frappant, c'est que dans tous les mouvements qu'on a eus ces dernières années, que ce soit le mouvement Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Bure, que ce soit en ce moment les Gonesses, que ce soit même Sivens, etc., vous remarquerez que dans tous ces mouvements-là, premièrement, il y a eu des paysans, toujours présents, et deuxièmement, il y avait toujours... en parallèle de ces mouvements, une alternative agricole. Mais en tout cas, si on se dit qu'il faut redonner une centralité à la question paysanne, ça veut dire qu'on va hiérarchiser les luttes et les mobilisations autour de ça. Donc ça, c'est une manière d'envisager aussi nos luttes d'une certaine manière. C'est défendre les terres agricoles, c'est soutenir les luttes paysannes et peut-être récupérer cette dissidence, c'est-à-dire cette autonomie dans notre vie, dans nos modes d'existence, et essayer de connecter les dissidences sur un territoire. C'est ce que j'appelle des dissidences territoriales. Donc ça, on en pense qu'on veut, mais moi je pense que dans l'état actuel des choses, moi je ne vois pas d'autres possibilités pour sortir de l'impasse dans laquelle on est.
On s'est adressé à la Chambre d'agriculture, on a envoyé un courrier à l'autorité sanitaire européenne et on va...
Et en retour, vous avez eu un chantage à la délocalisation.
Et une information sur la menace bio-invasive.
Oui, mais justement, c'est ce qu'on voulait vous dire, on a l'intention
non,
là...
Non, pardon, mais stop. D'abord, ça sert à rien de venir m'embrasser et me serrer contre vous parce que vous avez appris que Zeph est à nouveau malade. S'il est malade, c'est à cause de Christian qui répand ses merdes depuis des années sur les champs et les habitations et les habitants. Le seul tort de Zeph, c'est d'avoir été son voisin et d'avoir respiré son poison. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Pareil pour la coopérative qui fourque ses produits de merde. Aucun d'entre vous ne fait rien, franchement. Je les entends encore, toutes vos grandes phrases au début du Covid. On va changer les choses, on a compris, mais il s'est rien passé. Rien. On perd, là. On a perdu, ça y est. Et on organise des manifestations. Mais eux, pendant ce temps, les vrais responsables, ils se marrent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils continuent d'étendre leur zone d'épandage jusque sous nos fenêtres, jusque chez nous. Et nous, ben, on dit rien et on est content d'avoir une information sur la menace bio-invasive. Mais c'est du vent, tout ça, vous voyez pas? C'est des mensonges, du temps de gagner pour eux. Et nous, on crève, putain!
Les entretiens que vous avez entendus dans ce deuxième épisode de Vivace ont été réalisés en octobre 2022 dans l'Aude avec Pascal, Albert, Titou et Fanny. Comme son piqué sur les internets mondiaux, on a pu entendre Sylvia Pérez-Vitoria, économiste et sociologue, sur la disparition et la réémergence des mouvements paysans. Une action d'extinction-rébellion lors d'un discours de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Marie-Stella Svampa, sociologue argentine, qui analyse l'intensification de l'export des matières premières. Un extrait du film Goliath de Frédéric Tellier. Et pour les lectures, on a entendu des passages de la vie à la ferme des Bertranges dans le Lot, qui sont issus du livre Nature humaine de Serge Joncourt. Ce documentaire a été tricoté par Julien Carretero et mis en musique par Marion Poissel. Vivace reviendra dans un prochain épisode avec de nouvelles voix vivantes et tenaces contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, dans le Tarn.
Si on dit révolution, il faudra dire douceur. C'est-à-dire commencer par accepter d'être du côté d'une stratégie non productive, non efficace, non spectaculaire, et que seule la ferveur permet d'embraser.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.